Peut-on être sans avoir été ? Telle est la question que nous allons nous poser dans cette nouvelle émission. Bienvenue dans le premier CMA. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cet Et mieux après, autrement dit CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Pour mieux comprendre ce qui nous entoure, des objets à la musique en passant par le cinéma ou la mode, rien de mieux que de revenir sur leur création, leur invention ou leur naissance. Ce soir, on va, je l'espère, apprendre des choses pour briller à la machine à café demain ou gagner au Trivial Pursuit. Et pour nous y aider, toute une bande de chroniqueurs et de chroniqueuses qui n'ont qu'un seul but, être curieux. Et vu les sujets, vous verrez qu'ils sont vraiment curieux. Voici donc la présentation des quatre premiers sujets de ce soir. Bonsoir Manu, heureux de te trouver dans cette émission. Je crois que tu viens ce soir avec une question existentielle.
Ah bah existentielle, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Moi, ma question c'est qui, je le dis tout de suite ?
Oui, oui, vas-y.
Qui a mangé la première huître ?
Ah !
Voilà.
Qui a eu l'idée de manger ce tas
ouais.
de...
Okay. Enfin, ouais, parce là. Que quand même, on la mange vivante, on la mange nue, à peine habillée d'un trait de citron.
Ouais.
Qui a eu cette idée-là ? Et ben, c'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui.
Ok, très bien. Alors, à côté de toi, il a survécu au grand mercato de la radio. Il rempile cette année dans CMA. Lui est curieux, mais on saura peut-être pourquoi ce soir. De quoi tu nous parles, Florian ?
Eh bien, figurez-vous que ce week-end, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Mais j'avais surtout la dalle, donc je me suis présenté dans une boulangerie. J'ai vu plein de superbes pâtisseries, de sandwichs hyper appétissants avec toutes sortes de graines dessus. Et là, je me suis demandé, mais qui, un jour, a eu l'idée de mettre des jolies petites graines noires de pavot sur le sandwich ?
Ah, le pavot. Mais le pavot, c'est aussi une drogue. Hein.
Ah, bah on verra ça.
Bon, ok. Très bien. Tu commences fort. Alors, elle aussi, elle est à fond. Depuis l'annonce de la reprise de la radio, elle ne tient plus. Je crois qu'on va prendre cher en story cette année. Bonsoir, Caroline.
Bonsoir.
Alors, tu es venue en sac ce soir. Je ne parle pas de tes vêtements. Hein.
Oh. Et voilà, ça commence. Moi, je m'y attendais un peu. Ben oui, pour la première, il fallait du lourd un peu. Donc, ce soir, je vais vous parler du sac de luxe le plus vendu au monde. Et Cocorico. C'est une maison française.
C'est une maison française
qui est en haut du podium.
Bon, eh ben, on va voir ça tout à l'heure. Et enfin, pour finir cette première partie, on va se poser la question qui taraude toute une génération, mais pas la nôtre. Ce sera notre ado de cette saison. Hein. De quoi nous parles-tu, Mathias ?
Alors, je pense que je vais vous faire découvrir des choses, car ce soir, je vais vous parler des Pokémon. Et j'ai aussi appris des choses, d'ailleurs, en cherchant... Les infos.
Bah moi j'ai un dentifrice Pokémon.
Ah bah oh là.
Oui, voilà, j'ai un dentifrice Pokémon.
Bah écoute,
il a quel goût ?
Il a goût Pokémon.
Goût Pikachu. On a donc nos quatre premiers sujets. En fin d'émission, nous voterons pour le thème qui nous a le plus surpris. Alors ne perdons pas une seconde, c'est le moment de revenir aux origines. Vous êtes dans CMA. Manu.
Oui, alors, elle fascine, exalte, rebute parfois, mais ne laisse personne indifférent. On la mange vivante et nue, à peine habillée d'un trait de citron. Elle est pure et tonique, gorgée de vitamines et d'oligo-éléments. Je vous captive là ?
Ouais.
Je sens que je vais gagner. Tout un poème cette huître, mais quand même, à bien y regarder, et même si ce mollusque bivalve peut parfois métamorphoser un grain de poussière en perles précieuses, il faut en passer des caps pour voir tout ce qu'il y a de bénéfique en elle. Un peu comme les impôts, quoi. Et c'est pas Olivier qui me dira le contraire, ça rebute, ça blesse, c'est chiant, mais il faut quand même avouer que la première sensation passée, un peu désagréable, il y a plein de raisons merveilleuses à apprécier de payer des impôts.
Oui, bien sûr,
oui,
c'est pas
oui,
le sujet.
Oui,
hein, donc.
Non, alors, revenons du bord de la mer pour nous rendre au bord de la mer. Vous l'avez ?
Ouais.
Quelques scientifiques fortement débordés se sont évertués à nous expliquer par le menu comment, un jour, un humain a décidé que ce serait peut-être bien de manger ce truc gluant enfermé dans une carapace de calcaire et de nacre. Je suis sur la plage, mon regard virevolte de rochers en algues, de grains de sable en môme qui chiale, de mouettes qui crottent en crabes qui me chopent, une vague m'emporte. Je divague. Rattrapez-moi ! Rattrapez-moi ou bientôt je serai morte. Je ne sais pas nager. Je suis Madame H. J'aurais pu m'appeler Madame M, en référence à la moule, pour assurer la rime avec la houle qui faillit m'emporter. Mais je préfère de loin m'appeler Madame H, du nom que je donne à ce fruit venu de la mer, aujourd'hui si convoité. Je vécus il y a de cela 164 000 ans. Et si l'existence de notre espèce sur Terre se condensait en une journée, il serait 10h53, vous suivez pas. On ne dirait pas comme ça, on me croit poète, alors qu'en fait je suis une scientifique chouette, je suis un héros scientifique même, un explorateur ou une exploratrice culinaire. Je suis une femme, oui, car c'est à moi que revient la cueillette. Oui, je ne perds pas mon temps à rattraper ce qui vole ou court, alors je ramasse et je cueille.
Donc c'est une info, c'est une femme qui a la première fois tenté...
On a dit qu'il fallait apprendre des choses.
Ok.
J'observe la nature, les animaux qui m'entourent, j'apprends de leur comportement. Lorsque j'ai dégusté ma première huître, je m'étais aventurée par erreur dans l'océan, à la recherche d'un autre mets, probablement une otarie, une baleine échouée, une tortue ou ses œufs, que sais-je. Oui, je mange de tout, je ne suis pas difficile, je n'en ai pas les moyens. D'habitude, j'évite le bord de l'océan. Il est imprévisible et je le considère comme une zone sans intérêt, d'où je ne peux rien prélever la moitié du temps. Donc, c'est pas intéressant. Mais ce jour-là, la mer était basse, plus basse qu'à l'habitude. Elle était partie loin, par-delà les rochers, découvrant quelques spécimens qui ont attiré mon attention. Je surveillais, du coin de l'œil, ces chimpanzés qui me suivaient quand je les ai vus déguster ce mets gluant et difforme contenu dans les coquilles fracassées bêtement contre les rochers. Curieuse pratique, me dis-je, mais j'ai vraiment très faim. À bien y réfléchir, on n'est pas si différents et j'ai vraiment très, très faim. Je les regarde et décrypte leur méthode. Je ne connais pas le citron, encore moins le vinaigre. Étrange sensation en bouche, la bête ne se défend pas. Elle se laisse glisser dans mon gosier, je suis subjuguée, pas besoin de cuisiner.
Oh non, bah j'aime oui. pas ça.
Mon estomac se remplit. Blu, blu.
Ah bah il va se vider le mien, je te le dis.
La mer aussi. Je dois partir, quitter ces rochers, mais je reviendrai. Un jour, je comprendrai le lien qui unit l'océan à cet objet blanc lumineux qui apparaît la nuit venue. Oui, je suis astronome aussi. Je pourrai alors prévoir ma cueillette et festoyer, récupérer les coquilles pour ornementer sépulcres et mausolées, jusqu'à découvrir un jour une perle que je mettrai en valeur en la transformant en bague. Comme quoi les huîtres, c'était drôlement mieux après.
Oh, bien, bravo.
Joli.
Et donc, en fait, ce sont les singes qui les premiers ont fait et on imagine qu'en mimant, on a voulu goûter aussi.
En tout cas, ce ne sont que des hypothèses parce qu'à ce jour, on n'a pas de preuves. On a des traces, en tout cas, de sites, de cultures.
Ah, déjà d'huîtres à cette époque-là.
Voilà, donc d'accord. On suppose... que voilà, ça a servi de lieu de culture, mais avant que ce ne soit une culture, évidemment, c'est le hasard qui a amené à cette découverte. Et souvent, ce sont les animaux qui ont indiqué aux hommes, les homo sapiens.
Ouais. Donc j'imagine qu'il y a certains animaux qui ont goûté des choses qui étaient polluées ou qui n'étaient pas bonnes, et puis qui sont morts, et il n'y a que ceux qui...
Voilà, exactement.
Voilà, donc si eux, ils sont vivants, on peut manger.
C'est ça.
Ok. Bon, ma prochaine chronique sur ceux qui ont mangé les escargots la première fois. Parce que là, c'est pareil, hein, je pense que c'est un peu bizarre quand même.
Oui, c'est un peu bizarre.
La personne qui s'est dit, tiens...
Mais non, je vais changer de registre un petit peu. Voilà.
Très bien. Ouais. Merci Manu.
Je vous en prie.
Allez, nous allons passer maintenant à la chronique suivante. Eh bien, ah oui, je ne sais pas si ce sera l'opium du peuple, mais en tout cas, pas vous, Florian, hein, tu commences bien l'année.
Oh,
allez, on plante quoi ce soir?
Eh bien, on va planter du pavot.
Ah.
Eh oui. Alors attention, je vous ramène au 1er mars 2019. Et là, c'est l'alerte nationale, la DGCCRF, que vous connaissez tous,
ouais.
La direction de la consommation, de la répression des fraudes, tout ça,
ouais.
Appelle à ne plus manger trop de pain. Avec des graines de pavot.
Ah bon ?
Ah bon ?
Ah oui, oui.
Ah oui, j'ai pas eu l'info.
Ah moi non plus, j'en mange toujours, moi.
Bah écoute, va falloir changer. Le centre antipoison parisien a relevé des taux anormalement élevés de morphine et de codéine dans les urines des patients auxquels ils ont fait les tests.
Ah bon ?
Parce qu'ils avaient mangé des sandwichs avec du pavot dessus.
Tu parles, ils se sont pris de l'opium, oui.
Et oui, parce que des sandwichs ont été retrouvés avec 4 mg de morphine. Soit l'équivalent d'un demi-cachet de Skénan, pour ceux qui connaissent le Skénan,
d'accord.
Voilà. Alors, je vous rappelle quand même que les effets de la morphine, c'est un antidouleur, dont les effets secondaires peuvent être somnolence, entre autres, somnolence, ou à l'inverse, euphorie. Alors, je vous donne un petit peu le...
Ah bah, je continue.
Il y a aussi constipation.
Ah, aussi.
Voilà. Bon, après, il y en a plein d'autres, mais peut-être pas tous les faire. Voilà, alors si je vous dis aussi que le pavot, c'est la plante à partir de laquelle on fabrique donc l'opium, tu l'as dit Bruno,
ouais.
Mais aussi l'héroïne, donc qui est effectivement une drogue dure. Donc
alors
voyez...
si où tu prends tes sandwichs toi, vas-y redis-nous parce que d'un coup là c'est sympa.
Donc vous voyez encore plus les effets et, ouais. et pourquoi effectivement la DGCCRF s'est empressée de donner une alerte. Alors de la drogue dans les sandwichs, non mais c'est le scandale absolu. Et tout ça à cause de qui? Tout ça à cause du Papa Vert.
Du Papa Vert.
Du Papa Vert.
Papa qui n'a rien à voir avec Pavard, le footballeur.
Ça. Non non non.
Ni la maman bleue, enfin c'est autre chose.
Ni l'éléphant
non
bleu.
Plus. Et donc ça, c'est à cause du Papa Vert somniferum, qui est donc le nom latin, le nom officiel du pavot, donc du pavot somnifère, qui est à la base donc de l'opium, de l'héroïne et de ce qu'on mange aussi sur les sandwichs.
Non mais c'est large le pavot, parce que le coquelicot c'est aussi un pavot.
Alors hein. effectivement, la plante, donc le pavot ça ressemble effectivement à un grand coquelicot,
ouais.
Puisque le coquelicot fait aussi partie de la famille des pavots.
Donc si on se bouffe un coquelicot,
donc si vous bouffez un coquelicot, alors non, il faut manger les graines parce que c'est,
ah,
les,
c'est
graines,
les graines. Sont, voilà. D'accord, ok.
C'est les graines, mais effectivement, je vous
première émission, on vous dit comment vous droguer. Moi, je dis, hey, on va bien finir la saison. Moi, je te
alors,
le dis. Hein,
non.
Modérato, attention. Parce que quand même, faut en avoir beaucoup des coquelicots et
mais
pour
c'est la saison. Il y en a plein.
Faut pas de pesticides et pour avoir, oui, un champ.
Enfin, quitte à se droguer, pesticides ou pas, on s'en fout.
Mais tu trouveras pas surtout.
Alors c'est ça, effectivement, il faut manger quand même beaucoup de sandwichs et de baguettes avec les petites graines de pavot dessus, quand même, pour avoir. Les effets, même si aux États-Unis il y a une femme qui s'est fait arrêter, qui a eu un contrôle routier, la drogue et tout, et elle a été positive
parce qu'elle a foutu
à la morphine et oui parce qu'elle a dit qu'elle avait mangé des
mais bien sûr
pas vous avant.
Oui,
oui, oui.
Écoutez,
tu connais l'histoire d'accord. de la marmotte
bon alors ça c'était une petite introduction hein, mais quand même je reviens à la question initiale, c'est comment un jour on s'est dit on va mettre des graines sur le pain.
Eh ben, le jour où on a mangé des huîtres.
On a les graines de sésame, ça c'est connu, même sur les hamburgers on a ça. On a les graines de quoi de plein de trucs.
Enfin,
de courge, ouais, ça croque un peu, ça donne un petit. Ouais.
Mais là, ces graines de pavot. Alors.
Qui a dit ça?
Bon. Moi je pensais que la première fois que j'ai vu un sandwich avec ces graines-là, en fait c'était quoi? Dans la fin des années 2000. Alors, je ne suis pas si vieux que ça, alors je ne sais pas. Et je me suis dit, c'est un peu comme une mode. Enfin, je ne sais pas, il y avait plein de sandwichs qui sont apparus comme ça avec des graines.
Ouais.
Je me suis dit, c'est la mode. Eh bien, en fait, pas du tout. Ça fait bien, bien, bien longtemps qu'on utilise le pavot en cuisine. Et notamment pour la pâtisserie.
Ouais.
D'accord. Beaucoup pour la pâtisserie. Parce que ces graines sont réputées en diététique pour la qualité de leur huile et leurs propriétés nutritionnelles. Très très bonne, au-delà effectivement de leur composition toxique à grande dose.
D'accord.
Et donc l'utilisation du pavot remonte à des millénaires. Déjà il y a 4000 ans, on cultivait en Suisse et on l'appelait la plante de joie.
D'accord.
En référence bien sûr à ses effets euphorisants. Bon, pas étonnant que maintenant il suce des ricolas. Hein.
Bien sûr.
Charlemagne aussi, en l'an 800, enfin aux alentours. Qui n'aimait pas les Suisses, a même demandé à en planter partout dans les domaines royaux, justement pour l'utiliser. Voilà, donc ça s'est un peu répandu tout partout en Europe. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, ça serait chouette d'en mettre sur les gâteaux, en mode un peu space cake, quoi.
Ah oui, d'accord. Et en fait, et d'accord.
Mais c'était déjà l'intention.
C'était déjà l'intention. C'est pas pour la déco, c'était pour l'intention de dire c'était, un petit
alors,
peu.
On s'est rendu compte, hein, depuis très longtemps, on s'est rendu compte quand même de leurs effets. Ouais. Et on l'utilisait en médecine, en fait. Hein. Pour leur effet, voilà, somnolence, euphorie, on avait bien compris que le pavot, c'était très intéressant. Et voilà, et après, on a vu les effets aussi nutritionnels, et on s'est dit, on va en mettre en cuisine.
Ok.
Et là, les Polonais ont eu une petite idée.
Oui.
Puisqu'ils ont créé un gâteau spécial avec le pavot, qui s'appelle le Markowiec. Retenez bien ce
Markowiec.
Ce Markowiec. Hein.
Yeah.
Vous allez me dire un petit peu si vous voyez à quoi ça peut ressembler.
Ouais.
Donc c'est une pâtisserie avec une pâte à brioche roulée et fourrée à la pâte de graines de pavot.
Oh, sympa. Ouais.
Et oui, un petit peu comme le...
Le kouglof roulé sous les aisselles.
C'est ça.
Ou le doubichou.
Ou le doubichou, kouglof ou je sais pas quoi.
Ça ressemble un peu à ça.
Ok.
Donc c'est une spécialité traditionnelle en Europe centrale. Donc Pologne, Autriche, République tchèque, par là. Et ça se mange à Noël ou à Pâques.
Très bien.
Voilà, j'ai pas fini. Et donc, si vous voulez en goûter, quand même, parce que je vous en parle, il faut quand même le goûter.
T'as
si
bien,
vous
fait, voulez... bien fait de me dire dans la préparation de l'émission, je crois que ça va être court.
Si vous voulez vous régaler d'un Markowiec, je vous conseille d'aller à Poutigny.
C'est où?
C'est en France.
Ah, quand même.
Ah oui.
C'est au sud de Caen, donc pas si loin de ça,
ouais.
Pour les Angevins, où vous trouverez sûrement les meilleurs Markowiec français qui... parce qu'en fait, c'est les immigrés polonais au XXe siècle qui sont venus travailler dans les mines des mines de fer au sud de Caen, qui ont apporté avec eux cette recette traditionnelle. Et donc c'est très centré quand même par là, quoi. Je crois pas qu'on en trouve ailleurs.
Donc il y a du pavot là-bas.
Mais voilà, si vous voulez faire les touristes et manger du Markowiec.
T'as goûté?
Écoute, non, pas du tout.
Eh ben, écoute, non, mais là, on va se prendre un petit bagel pavot. Moi, je crois que c'est maintenant. Je veux un bagel à l'orine, s'il vous plaît. C'est... Bon, merci Florian, ça va être sympa ton jardin. Allez, même si on dit que certaines créations sortent de l'imagination d'un artiste, il s'inspire souvent de choses déjà existantes. La mode a aussi une histoire. Et on parle de sac ce soir avec Caro, c'est ça?
Yes. Ce soir, on va comprendre les origines du... Sac. Du timeless qui vient de quelle maison? Allez.
Chanel.
Oui. Le timeless, sac emblématique de la maison Chanel et surtout sac le plus vendu au monde. Alors, il faut remonter aux origines de Chanel, la maison tout court en fait. Sa créatrice, Gabrielle Chanel, tout le monde la connaît, était une femme très en avance sur son époque. Donc elle ne supportait pas les entraves liées à sa condition de femme, aussi bien dans sa vie que vestimentairement parlant. Donc elle a fait une petite révolution en créant sa marque pour libérer les femmes des corsets, des jupes longues, des sacs à main qui empêchaient certaines activités, dont le cheval, qu'elle adorait particulièrement, et surtout certains mouvements du quotidien en fait. Donc elle a emprunté beaucoup au vestiaire masculin, c'est pour ça que maintenant on trouve les pantalons, les pulls, les t-shirts, marinières, etc. Ils ont été créés grâce à elle. Donc elle a inévitablement pensé à créer le sac qui va avec.
Oui, forcément.
Et les sacs avant les années 50 étaient des petits sacs très rigides et portés exclusivement à la main. Donc elle en avait marre, elle voulait faire des mouvements avec ses bras, aller danser jusqu'au bout de la nuit, je ne sais pas. Donc elle voulait un sac qui laissait les mains libres et quelque chose de très solide, de très féminin, pratique pour nous, évidemment.
On a mis le sac à dos, c'est ça?
Pas du tout. Non, parce que le sac à dos, c'est moche.
Oui, c'est ça. Sac banane, alors?
Pas du tout.
Pas du tout. Mais comment on fait, alors?
Alors, au début, elle a créé un sac qu'elle a appelé le 255.
Bien sûr.
Pour la date de création, en fait, février 1955, pardon. Okay. Et c'est lors d'une refonte en 1983 par Karl Lagerfeld que le nom Timeless est sorti. Ça veut dire intemporel.
Ah.
Voilà, le nom Timeless est apparu parce que ce sac est devenu vraiment culte pour toutes les femmes. Toutes les femmes se l'arrachent, c'est vraiment la target numéro une. Et quelle est la particularité du Timeless? Voilà. Alors, c'est un sac en cuir de veau grainé ou d'agneau matelassé. Ce sont les deux versions les plus courantes. Le basique, c'est le sac noir. Il a une forme rectangulaire car plus pratique. Il a une chaîne longue pour le porter en bandoulière avec un mélange de maillons et de lanières en cuir pour qu'il soit doublement solide, qu'il tienne dans la durée. Le côté solide est un peu plus renforcé.
Il fait 15 kilos ton
donc
sac là déjà.
C'était très très malin. Non, une petite lanière, tout est léger.
Ouais.
Non, tout
même
est
la
très
chaîne,
bien pensé.
Elle est légère, d'accord.
Oui, bah après, il faut faire un petit effort, c'est sur l'épaule.
D'accord, ok.
Alors, capable de résister, durer et laisser la liberté aux bras et aux mouvements. Le matelassage, il rappelle celui du milieu équestre qu'elle adorait. C'était sa passion. L'intérieur grenat rappelle les uniformes de son pensionnat quand elle était enfant, voilà. Donc c'est un sac qui a une petite histoire, parce que ça rappelle un petit peu toutes ces petits codes de jeunesse, etc. C'est mignon. Et alors là, à l'intérieur, c'est la pépite, quoi. On y trouve une pochette spéciale pour le rouge à lèvres, spéciale femme. Donc une autre plus plate, car elle y cachait les lettres de ses amants.
D'accord.
Une autre à l'extérieur qu'on appelle le sourire de Mona Lisa, puisqu'il en fait c'est une pochette que l'on voit à peine et qui est légèrement courbée.
C'est pour les
capotes ? Servait... Non.
Pardon. Je sais pas.
C'était
propose,
pour
hein.
les billets. C'est
ah,
mieux.
Ah oui, c'est mieux, oui. D'accord.
En 55, les capotes, c'était pas la
bonne. Ah oui, on était décapotés à l'époque.
En laine.
Oui, ça...
C'était pour les billets, pour éviter d'avoir à sortir le sac et que tout le monde voit l'intérieur. Voilà, c'est très subtil, c'est quand même marrant. Et voilà, donc Karl Lagerfeld, lui, il a changé la serrure à torsion qui était carrée à la base, qui s'appelait serrure mademoiselle, pour un fermoir en double C. Et c'est devenu le sac emblématique que tout le monde connaît,
avec
que tout le monde
Coco.
S'arrache aujourd'hui.
Oh, c'est beau. Le
c'est
timeless,
beau,
alors.
Ouais. N'est-ce pas
timeless.
Bon.
Prévoyez 4000 euros.
Ah oui, quand même. Ah oui, c'est ça. Elle nous achève à la fin. Toi, c'est... Là, on est... voilà, tu nous vends le truc et puis à la fin,
ouais,
bingo.
C'est ça. Tu nous envoies du rêve et puis tu fais
une déception. Quoi.
Manger bon. Du Markowiec à la base.
Oui, c'est ça.
C'est moins cher.
C'est moins cher.
Bon, bah, écoute, on attend les stories avec ton sac.
Bah oui.
Hein, pour voir ça. Est-ce qu'on peut te suivre d'ailleurs sur internet? Vas-y, fais
ta petite pub. Bah oui, sur Instagram, CarolineTHMS.
C'est toujours aussi compliqué. Mais...
C'est ça, j'ai pas pu changer, Instagram ne veut pas.
D'accord.
Je suis obligée de garder.
THMS, d'accord.
C'est ça.
Ok, bon.
Et bah... c'est un compte qui est fun et qui est drôle, en fait.
Ouais, et ben on va pouvoir te suivre.
Voilà, suivez-moi.
Allez, vous avez remarqué que CMA est un programme des plus éclectiques. En voici une nouvelle démonstration, puisqu'après les huîtres, le pavot et les sacs, on passe au Pokémon, n'est-ce pas, Mathias ?
Oui.
Alors, de quoi tu nous parles de Pokémon ? On connaît rien de Pokémon ici.
Vous avez tous entendu déjà le mot Pokémon.
Oh bah oui.
Oui, alors par contre, on l'a entendu, oui.
Eh ben, c'est un mot, en fait, dont c'est une fusion anglaise entre Pocket et Monster, qui faisait Pocket Monster, à la base.
Ah.
Ça a commencé comme ça. Et donc, ce sont des petites créatures dotées de pouvoirs qui peuvent cracher du feu, de l'électricité, de l'eau, enfin, chacun a son élément, et qui peuvent se faire attraper par des êtres humains avec des boules rouges et blanches qui s'appellent des Pokéballs.
D'accord. Voilà.
Mais alors, ils sont sauvages.
Ils sont sauvages. D'accord. On les trouve dans la nature. Et en fait, le but du jeu, c'est d'entraîner ces Pokémon. Donc, il y a des niveaux. Il faut les entraîner pour qu'ils soient de plus en plus forts. Battre des champions d'arène. Donc, il y a 8 champions dans chaque jeu, version de jeu. Et après, on rentre dans la ligue où là, il y a encore 4 super grands, costauds. Voilà.
Donc c'est nos esclaves et on les fait se battre entre eux, c'est ça ?
C'est un peu l'idée.
Belle alors, philosophie pour les jeux.
C'était pas vraiment l'idée de départ. Enfin, c'était plus un jeu qui était fait pour être proche des animaux. Humains, animaux, avec d'accord. un rapport plus... Mais effectivement...
Mais donc du coup, ils crèvent ? On les tue ?
Ils s'évanouissent. Quand ils peuvent plus se battre, ils s'évanouissent.
Ah, d'accord. Ça va alors. Ça passe.
Ils revivent, oui. Après.
Ah, ils se font soigner, ils pètent le feu. Et,
Ah bah voilà, fallait commencer par là, d'accord.
Donc du coup, je me suis demandé, mais... Je joue à Pokémon régulièrement.
Pourquoi ?
Déjà,
on se pose la question, pourquoi ?
Regardez ces stories.
Est-ce que c'est bien Pokémon ? Et du coup, je me suis dit, d'où est-ce que ça vient ? C'est vrai qu'on sait que ça vient plus ou moins des années 90, que c'est un jeu avec des petites créatures, voilà. Mais d'où...
Au tout départ ?
Au tout départ, d'où c'est venu ?
D'une huître.
La boucle est bouclée.
Est-ce qu'il y a un
non,
Pokémon
mais il y a un Pokémon huître.
Oui. Oui, il y a un Pokémon huître. Bah, un coquillage.
Coquillage. Ah.
Qui s'appelle Coquiperle.
Bon, c'est mignon.
Oh là là, je connais.
Et bah oui.
Et t'en as autour du cou.
Non. Oui, c'est,
c'est vrai, en général.
Du coup, c'est Satoshi Tajiri. Alors,
oula.
Voilà, à tes souhaits.
Tout en lien avec le pavot, là, du coup.
Et le créateur de ce jeu, quand il était plus jeune, en fait, il était passionné d'insectes. Il adorait les collectionner, les étudier, comprendre. Chaque insecte avait un peu ses spécificités. Quand étant gamin, il adorait jouer avec ça. Et en grandissant, le Japon s'est beaucoup modernisé, s'est urbanisé. C'est devenu très béton, la ville et tout. Et il a voulu retrouver un peu ce côté de petites bestioles qu'on collectionne, avec chacune des petites différences, quoi. Mm-hmm. Et du coup, il s'est dit qu'il allait faire un jeu avec ce genre de créature. Et il aura mis 6 ans en tout à créer son univers, parce qu'il y a tout un univers, hein. Il y a les créatures, mais il y a tout ce qui tourne autour, les éléments, les combats, les échanges. Donc 6 ans. Le point clé justement de son jeu, c'est qu'il y a 2 versions. Donc la toute première version Pokémon, c'était version verte et version rouge. Après, nous, on a connu la bleue. Et en fait, c'est parce qu'il mettait... Moi, il y avait 20 bestioles qu'on n'avait pas, Pokémon qu'on n'avait pas sur un des jeux, mais qui étaient sur l'autre.
Ah, c'est malin, fallait acheter les deux.
Non, il fallait pas acheter les deux.
Ah.
Il fallait avoir des copains qui avaient aussi une Game Boy
avec l'autre
jeu.
D'accord,
et on mettait le câble et on s'échangeait les Pokémon.
C'est malin.
C'était bien les Game Boy.
Très très malin.
Ou Game Boy Color.
Avant les Game Boy et tout ça, il y avait les cartes. Enfin...
Non, ça a été le premier sur Game Boy.
Ah, Pokémon est vraiment électronique au départ. Ouais. Les cartes sont venues après, en fait.
Oui, d'accord. C'était un produit dérivé. Bon, produit dérivé, ça fait partie de l'univers Pokémon, mais c'est venu plus tard, ouais. Et du coup...
J'apprends des trucs, en fait.
Et c'est sorti, du coup, en 1998. Je pensais que c'était plus récent que ça.
98, oui,
ça commence à sortir en 98. Je m'en souviens, j'avais ça quand j'étais en... Oui, non, je peux pas dire.
Elle vient d'avouer qu'elle est vieille.
Ça restera mystère.
J'avais 21 ans.
Ah. Et ben depuis, ce qui est surprenant, c'est que Pokémon, c'est un jeu qui fonctionne toujours.
Ouais.
Quand on a vu Pokémon Go qui est sorti là il y a 5 ans sur téléphone, les gens qu'on a vus dehors jouer à Pokémon Go, alors il y avait l'intérêt de la réalité augmentée, mais il y avait aussi le côté collection. On retrouvait les Pokémon, on connaissait tous les noms de Pikachu, Salamèche,
Toutes les générations.
C'est fou, toutes les générations.
Ouais. Et aujourd'hui, j'en croise encore. Il y a des événements qui se font des fois le week-end, et j'en croise en centre-ville. Et pareil, hein, toute génération, tout niveau social. Enfin, c'est.
Ah ouais,
c'est un bloc.
Moi, je voulais m'y remettre là. Tu me conseilles ou pas ?
Ah bah, après l'émission, vous en reparlerez alors.
Merci.
Et il y a eu déjà deux jeux sur Switch, donc la dernière console Nintendo.
Ouais.
Et ils se sont vendus, je sais pas les chiffres, mais
ça marche toujours bien.
Ça marche super bien. Il y a un troisième jeu qui arrive là en 2022 et qui va être assez canon. Donc bah. Et sinon, okay. Pour finir, j'ai trouvé quelques petits noms de Pokémon sympas.
Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des noms bizarres des fois.
Oui,
hein.
Parce que des fois, c'est des noms un peu. Par exemple, il y a un Pokémon qui a plein de boutons qui s'appelle le Bratacné.
Oh non, c'est dégueulasse!
Ah, c'est vrai?
C'est assez ignoble.
C'est ignoble.
Mais l'image est là. Au moins, c'est parlant.
D'accord.
Non, mais j'imagine ces pauvres enfants là, dans la cour, ils vont se faire appeler Bratacné.
Bratacné.
Ah ouais, tu parles.
Je sais à peine voir son évolution.
Ah, c'est clair.
Après, il y a un Pokémon glace qui s'appelle le Sorboboule. Alors, j'ai pas trop su quoi
penser. Le Sorboboule.
C'est des jumeaux d'ailleurs. Non.
Bon, après, il y a d'autres noms comme le Soporifique, le coup de langue. Ça m'a fait rire. C'est vraiment un Pokémon avec une grosse langue. Qui s'appelle le coup de langue.
D'accord.
Avec le sort de boule.
Voilà, je pense que ça se paraît bien.
Ça marche bien.
ce qui est drôle, c'est de comparer les noms des Pokémon qui sont en version française. Parce que là
c'est la version française.
C'est la version française des noms des Pokémon. Mais t'as la version anglaise beaucoup.
Et puis japonaise. Enfin, toutes les versions. Ouais.
Et des fois, en fait, ça
n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est vraiment selon la culture du pays. Bratacné, je suis pas sûr qu'en anglais ça.
Donc là, c'est spécifiquement en français, c'est ce que t'es en train de nous dire.
Oui. Hein, sinon, au niveau sonorité.
Les machins langues, c'est français.
En plus, le business des cartes, il est dingue en ce moment. Il y a une carte Dracaufeu iridescente, elle atteint 50 000 euros.
Ah, quand même!
Ouais, donc si vous l'avez. Dans... Sortez vos collecteurs premiers.
On va en reparler alors. Merci Mathias. Allez, je suis sûr que beaucoup ici ont appris des choses. Hein. D'ailleurs, on saura en fin d'émission la chronique qui vous a le plus surpris ou amusé. Vous pouvez aussi jouer chez vous. Hein. On verra si vous avez le même avis que nos chroniqueurs. Dans un instant, on parlera de stylo-plume avec celle qui se fait un sang d'encre à l'idée de faire sa première chronique, Sandra. Mais on reviendra aussi sur les sacs. Par contre, ils sont bien différents de ceux de Caroline. Quoique. On décernera une palme rose et une palme bleue, enfin tout ça, voilà. Mais tout ça, ce sera après la reprise du jour. Alors, à défaut d'être toujours original, les chansons ont parfois des origines inattendues, car reprises par d'autres. Par exemple, à vous de me dire, à l'issue de ce titre, si c'est un original ou une copie. Voici Take Off Me.
Coming for you anyway. Take me on. I'll be gone.
Alors, la nouvelle équipe s'est mise autour de la table. Alors, d'après vous, est-ce que c'est l'original qu'on entend de Take Off Me ou pas?
Si tu demandes, non. C'est que non.
Bon, et, effectivement, c'est une reprise des Weezer et l'original, c'est plutôt ça. Voilà, c'est un petit peu différent quand même, hein, effectivement. Allez, vous êtes toujours dans CMA, c'était mieux après, où l'on revient sur les origines des choses. Voici les quatre prochains thèmes. Bonsoir Sandra, bienvenue dans l'équipe. Alors tu nous parles de quoi ce soir?
Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nostalgie du stylo plume. J'ai décidé de taquiner la plume.
Ah, d'accord. Bon, eh ben écoute, on va taquiner la plume ce soir. On a parlé de sac tout à l'heure avec Caroline. Tu vas faire pareil, Jérémy?
L'affaire sera dans le sac. On va voir lequel, justement.
Bon, ok. On sort les palmes ce soir avec Olivier?
Oui, la palme d'or.
Ah, on parle de Cannes.
Donc,
alors
ouais, j'ai eu voilà, j'ai voulu savoir mais pourquoi ça se passe à Cannes, le festival de Cannes.
D'accord.
Et aussi pourquoi une palme?
Ouais.
D'où ça vient l'idée de la palme en fait?
D'accord. Et puis nous allons avoir tout à l'heure Pauline effectivement qui nous parlera de la vie en couleur. Allez, beau programme, soyez bien attentifs hein, puisqu'en fin d'émission on verra quelle chronique nous a appris plus de choses. Les chroniques ont la pression hein. Voici la deuxième partie de CMA. Alors, Sandra, on jette l'encre ce soir?
Alors oui, ben voilà, j'ai décidé de taquiner la plume, mais pas la plume d'oie, ni même la plume de paon, mais ce bon vieux stylo plume, en fait, resté dans ma trousse d'écolière depuis des décennies. C'est donc avec nostalgie et stupéfaction que je vais vous parler du stylo plume. En effet, je me suis mise en quête d'un nouveau stylo plume pour écrire mes nouvelles œuvres de l'année. On sait jamais, peut-être que je vais gagner la prochaine chronique.
Oui, c'est ça, oui.
J'ai donc arpenté les rayons de la rentrée scolaire à la recherche de cette denrée rare. Et oui, au supermarché, le stylo plume fait grise mine. Cet objet majeur dans la réussite de notre année scolaire des années 50 aux années 90 a chuté de 50% depuis 5 ans. Fini les compétitions du plus beau stylo plume à l'école. Le choix se limite vite au stylo argenté ou doré.
C'est vrai.
C'est vrai en plus, hein, donc je l'ai vérifié. Tout d'un coup, je me suis fait un sang d'encre pour le stylo plume.
Eh oui, forcément.
Pourquoi cette disparition soudaine? Le stylo plume ne fait plus partie de la liste des fournitures scolaires, voilà. Il a été remplacé en fait par le stylo bille effaçable parce que, soi-disant, pour les institutrices, c'est plus facile à manier et ça fait pas de tâche.
Ah voilà. Oui.
Il y a aussi la nouvelle technologie, évidemment, qui domine dans l'apprentissage de l'écriture et dans la prise de notes. On voit bien, enfin moi-même au lycée ou à la fac, je vois bien que maintenant, les stylos sont remisés au placard et on ouvre l'ordinateur pour écrire le cours.
C'est vrai.
Tout à fait. Selon une étude de 2002, 40% des Anglais n'auraient pas touché un stylo depuis 6 mois. Alors maintenant, on est en 2021, donc je pense que la proportion
c'est
est peut-être
pire.
Encore plus de 60%, ouais. Peut-être.
C'est dommage, parce que l'écriture, c'est sympa aussi. Sauf pour les médecins, parce qu'on comprend rien.
Oui, comme on dit, les médecins nous prescrivent la mer.
Oh, joli.
Alors donc, fini l'émerveillement des pleins et des déliés à l'encre violette de nos grands-parents. Fini le buvard pour absorber les taches d'encre. Et fini la collection des petites billes dans les cartouches d'encre.
Mmh. Ah oui, oui, excellent qu'il faisait. Moi, je le faisais. Ah oui, les petites billes. Ah oui, voilà, bah, presque tout le monde.
Ah, oui, toi, tu voilà, mets ça dans la colle, disait Caroline. Pour les secouer, ça faisait du bruit, je crois.
Ah oui, ouais. Oui, excellent, c'est mais ça, oui, hein. Bien sûr. Ah, alors attention, Florian collait des cartouches au plafond.
Du radiateur au fond de la classe.
Bravo, ouais. Bravo Florian, bravo, bravo. Ouais, bon exemple, la jeunesse.
On te retrouvera.
En tout cas, moi, je veux faire revivre le stylo plume.
Oui.
Donc, sauvons nos stylos plumes, chers amis. Alors, du coup, puisque le supermarché où le stylo plume fait grise mine, comme je vous disais, du coup, je suis allée en librairie papeterie voir les stylos plumes, qui, eux, sont bien protégés derrière des vitrines transparentes.
Ils valent une blinde, en plus. Ouais.
Et mon émerveillement, effectivement, est revenu. Parce que les stylos plumes sont très beaux.
Ouais.
Et le prix est beau aussi,
oui,
évidemment.
Ça, oui.
Donc, alors oui, bonne nouvelle, le stylo plume existe toujours. Mais il est devenu un objet de collection, voire un objet d'art. Avoir un stylo plume maintenant, c'est plutôt une sorte de marqueur social. En fait, quand on sort son stylo plume, c'est pour se démarquer.
C'est ce que vient de faire Manu, elle a un stylo plume. Là,
voilà.
C'est de la radio, mais croyez-nous, elle vient de le sortir, son stylo plume. Ouais, c'est la pète, la Manu.
Voir, oui, ça, on peut, c'est une sorte de afficher sa noblesse.
Sa noblesse, ah bah la noblesse de Manu, oh là là.
Alors l'ancêtre du stylo plume, c'est le roseau taillé en pointe dans l'Égypte ancienne. Ensuite, il y a eu la plume d'oie qui est très connue. Mais en fait, on utilisait aussi les plumes de corbeau, de coq de bruyère ou de canard pour écrire l'écriture fine.
Est-ce que ça vient de là l'expression d'un corbeau qui écrit des lettres peut-être.
Ah oui,
on utilisait, peut-être pense, on utilisait des plumes de corbeau, pense, ouais. C'est possible que
d'accord,
ça vienne de là.
Ah oui, peut-être. Mais moi-même, je ne savais pas hein, les plumes de corbeau. Et pour écrire ou tracer des traits larges, on utilisait des plumes d'aigle ou de vautour.
C'est plus large déjà.
Ouais. C'est énorme.
Hein. Voilà. Gros truc, là.
Et peut-être pour la calligraphie, hein. c'était peut-être pour ça.
Peut-être aussi, ouais.
Donc l'inventeur du stylo plume fut Lewis Edson Waterman en 1884.
Waterman.
Son idée était d'obtenir un stylo dont l'encre pouvait couler jusqu'à la pointe sans un écoulement trop intense qui aurait fait des taches. Il utilise le procédé de la capillarité, ne me demandez pas, c'est très technique. Plus besoin d'encrier ou tremper sa plume, les cartouches d'encre font leur apparition. On assiste à une épopée technique et ensuite à une épopée esthétique. Donc il y a plusieurs marques qui se distinguent dans le stylo plume de luxe. Ainsi, Montblanc est connu.
Oui.
Sa signature, ça représente un sommet enneigé et il me semble même qu'il y a marqué 4800
sur le
capuchon.
Ah, elle a un Montblanc, c'est vrai, t'as un Montblanc. Attends,
ah oui,
4810, oh, elle a un Montblanc.
Ah oui,
à deux Montblanc. Oui. Très non. Bien. Ah, oui. Quoi. Moi, je préfère caramel et vanille en Montblanc. Tu
as une Rolex aussi.
C'est ça.
Il y a aussi alors une marque japonaise qui s'appelle Namiki. Je sais pas si vous la connaissez.
Non,
c'est alors, un Pokémon.
Non, c'est pas tout Pokémon, mais je vous montrerai parce que j'ai un catalogue et, c'est magnifique.
C'est, beau,
quoi. C'est des stylos laqués et soi-disant Napoléon en a eu un, donc à l'époque. Et donc il y a une autre marque qui ST Dupont qui s'est lancée dans les stylos de luxe parce que Jackie Kennedy en a réclamé un assorti à son briquet. Le stylo plume le plus cher au monde a été vendu 7 millions d'euros.
Ah oui,
ah,
quand même.
On va s'acheter des cartes Pokémon avec ça.
Donc c'est un Tibaldi Fulgor Nocturnus.
Ok, bon c'est de l'or.
C'est un Pokémon ça.
C'est ça, ouais, c'est ça.
C'est
ça, oui.
Harry Potter.
Nord, c'est de l'or, de la platine.
Donc la plupart des stylos de luxe sont en édition limitée. Le stylo est habillé de lac, de pierres précieuses, de gravures. La plume est en argent ou en or.
Et il écrit super mal.
Ah, il corrige les fautes aussi.
Et l'étape de la décoration d'un stylo plume s'appelle le guillochage.
Bon, voilà. Écoute, on note, hein, ça peut servir pour...
Alors pourquoi écrire au stylo plume? Plusieurs raisons à cela. Le stylo plume, ce n'est pas un simple outil d'écriture, c'est aussi un objet précieux, intemporel, que l'on conserve pendant plusieurs années, voire qu'on transmet de génération en génération. Il favorise la mémoire, donc écrire au stylo active différentes zones du cerveau qui le rend plus vif que si on tape au clavier d'ordinateur, soi-disant.
Okay. Bon.
On peut aimer aussi la sensation du glissement de la pointe du stylo sur le papier. L'écriture peut être lisse, ronde, fluide, ou soudain on peut entendre le crissement d'une rature. On peut vouloir une écriture personnelle, inimitable, qui nous donne du caractère et peut même s'étudier à travers la graphologie. Il n'en reste pas moins que la signature résiste encore au clavier. Mmh. On exige bien pour des documents officiels qu'on prenne un stylo pour signer.
Alors, moi maintenant, parce que c'est carrément le pouce à la banque.
Quoi ?
À la banque, on prend les empreintes maintenant. Et on fait moins de signatures. Ouais.
Après, il est plus lourd qu'un stylo. Quoi, donc c'est plus... Quand on écrit beaucoup, c'est quand même...
Ah, ça fatigue. Ça fait la bosse. Moi, je l'ai, la bosse.
Moi, c'est pareil.
Pas forcément. Ah bon, d'accord.
Donc en cette rentrée, réhabilitons le stylo plume, écrivons des sentiers de mots à l'encre bleue. Je compte sur vous et j'assume ma plume.
Très bien, merci, bravo Sandra. Allez, dès qu'il a entendu le sujet de Caroline sur les sacs, ça fait tilt. Mais pour lui, les sacs ont une toute autre origine. Alors, tu vas les mettre à sac, j'imagine.
Eh bien, je vais vous parler du coup du sac le plus vendu au monde, le vrai, le seul.
Ah.
À plus de 5, il a été fabriqué, on est monté jusqu'à 500 milliards d'unités par an, s'il vous plaît.
Ah oui, donc c'est pas un Chanel.
Voilà, et je parle bien sûr du sac plastique. 500 milliards d'unités d'après le Planétoscope, alors ça doit se réduire un petit peu aujourd'hui, heureusement. Mais ça fait quand même énormément de sacs plastiques. Et donc du coup, la question que je me suis posée, mais c'est qui ? Qui a la responsabilité
d'avoir
créé...
Quel est le con qui a inventé un sac plastique qui tue les tortues
avec ? Alors, d'où nous vient le sac plastique ? Eh bien, la découverte du plastique au début du siècle a provoqué énormément d'inventions liées à ce matériau miracle. Enfin, on le croyait à l'époque, en tout cas. Et en fait, il faut savoir qu'au tout début, les premiers sacs plastiques étaient soudés à la main. C'était des sacs qui n'étaient pas aussi jetables et fins que ce qu'on a aujourd'hui.
C'était comme un tissu, en fait. C'était le tissu plastique.
Voilà,
et
c'était
puis on...
des plaques plastiques, en fait, qui étaient assemblées, soudées. Et c'est en 1935 qu'on a eu la première machine à extruder le plastique qui a permis d'industrialiser tout ça. Et en 1961, c'est un Suédois. Hop, j'aurais parié plutôt sur un Allemand ou un Américain.
Ah ouais, non.
Voilà. Un ingénieur suédois qui a inventé la première machine qui permettait de fabriquer un sac d'une seule pièce. Et donc bah là, ça a été l'escalade, puisqu'on avait quelque chose de très peu cher, d'extrêmement résistant. Ça peut porter 2000 fois son propre poids, un sac en plastique. Donc c'est vrai que mécaniquement, c'est quand même intéressant.
Sur le papier, c'est beau.
Sur le papier, c'est beau, exactement. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, on s'est mis à utiliser des sacs plastiques? Parce que comment on faisait avant, sérieusement,
pour bah
transporter
oui.
les courses? Eh bien, on avait des paniers. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'apparition des supermarchés, si vous vouliez prendre des stylos plumes, des cartes Pokémon... plus tout un tas d'ustensiles plus ou moins utiles avec vous au supermarché, ben, les cabas en osier, ça ne suffisait plus. Il fallait pouvoir transporter beaucoup plus, permettre à la ménagère d'accumuler de plus en plus d'éléments. Et donc le traditionnel cabas est devenu obsolète, car obstacle à la consommation de masse, d'où l'apparition et le déploiement du sac en plastique.
Surtout qu'ils étaient offerts.
Qui était
on arrivait main dans les poches et puis on partait avec les sacs.
Le prix de revient d'un sac, c'est 1 centime à peu près par sac. Donc c'était un gros business pour les grandes surfaces, parce qu'elles donnaient ce truc quasiment gratuit qui permettait à leurs clients d'acheter encore plus de choses et qui donc forcément leur faisait encore plus de pognon. Donc 50 ans d'orgie de plastique passent.
Ouais.
Et quand le sac a-t-il été interdit en France, le sac en plastique?
Ah, c'est oui, alors ça fait 2 ans.
C'est pas si vieux que ça.
Ouais, 2 ans, peut-être.
Un peu plus que ça.
3 ans.
3 ans.
Un petit peu plus encore. C'est en 2016 qu'ont été interdits en France les sacs en plastique à usage unique. Alors après, il y a
eu
une étape d'abord.
Il y a eu des étapes.
Payant, voilà, etc. Et c'est qu'en 2016 où ils ont été complètement interdits pour ceux à usage unique ou d'une épaisseur inférieure à une certaine taille pour vraiment évacuer ceux qui étaient les plus polluants et qui étaient vraiment à usage unique. Est-ce que vous vous souvenez aussi, il y a une petite période des sacs oxo-dégradables? Ça vous parle,
non.
ça
Non.
Alors ceux qui, comme moi peut-être, essayaient de garder les sacs en plastique pour les réutiliser, pour éviter de les foutre à la poubelle tout de suite, se sont retrouvés chez eux avec des sacs qui finissaient en paillettes.
Ah.
Non, ça vous dit quelque chose, ça, les sacs où vous les laissiez dans un coin, voilà, vous les récupériez 3 mois après, vous disiez, ah ben, je vais mettre un truc dedans. Puis,
d'accord.
Ah, c'était en paillettes.
Et c'était fait pour, en fait.
Et c'était fait pour, en fait. C'était des sacs qui avaient été inventés.
En oxo. Alors,
la toile de tente,
il y avait une toile de tente en oxo. Alors, t'es pas au micro, mais effectivement, elle a des petits soucis.
Et c'était prévu pour être oxo-dégradable, d'accord. Bah, je savais pas qu'ils avaient.
Et oxo, ça veut dire que ça se met en petit.
Donc, en fait, c'est un processus de dégradation. C'était la fausse bonne idée du plastique qui se fait.
Parce que c'est encore pire.
Parce qu'on est d'accord, ça fait des paillettes. Je vous renvoie aux émissions de Temp des années précédentes pour savoir mon avis sur les paillettes. Et ça a été heureusement interdit un petit peu avant, en 2015, puisque voilà, les gens se sont rendus compte, les législateurs se sont rendus compte que c'était vraiment une fausse bonne idée.
D'accord.
Et en fait, c'était prévu pour se dégrader au bout de quelques mois en petits morceaux. Les commerciaux se sont dit,
Et après, il y a les biodégradables, mais c'est mieux.
Alors après, il y a d'autres types de plastique. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est compostage, etc. Mais il y a vraiment différents niveaux pour qu'on considère que le sac est compostable, pas compostable, etc.
Ouais.
Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que l'avantage du plastique, c'est qu'il est pas cher et résistant. Mais l'inconvénient du plastique, c'est justement qu'il est pas cher et résistant. Donc en fait, que le sac soit biodégradable, en plastique biosourcé ou quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, c'est vraiment notre usage et la réparabilité de l'objet qui fait le déchet. Mmh. Et donc, voilà, celui qui ne pollue pas, c'est celui qu'on n'achète pas. Donc, voilà. Je vous conseille, pour conclure, d'aller faire vos courses avec un sac Chanel.
Ah,
coup,
voilà, hein, bien sûr.
Là, on ne le jettera pas à la poubelle. Et voilà, le plastique, c'était fantastique, mais sérieusement, c'était mieux avant.
Oh, d'accord. Bon, c'est noté, merci. Olivier, c'est notre spécialiste cinéma. Il arrive encore à nous surprendre, car ce soir, tu sors les Palmes et
oui.
les Cannes.
Bah, je voulais vous parler du Festival de Cannes. Alors, est-ce que vous savez, un Festival de Cannes, c'est... pourquoi on a créé le Festival de Cannes? Eh bien, on l'a créé...
Des vieux?
Non, en fait, c'est un acte politique. On a créé le Festival de Cannes en réponse à la montée du fascisme. Alors, on arrive en 1938 et a lieu en 1938 la Mostra de Venise, donc le plus vieux festival de cinéma au monde, c'est la Mostra de Venise. Et en 1938, il y a un certain Goebbels, chef de la propagande nazie, qui est venu donc à Venise pour présenter à la Mostra le fameux documentaire « Les dieux du stade » de Leni Riefenstahl. Voilà, vous savez, c'était autour des Jeux Olympiques de 1936, où elle mettait un petit peu, faisait l'éloge voilà, de la supériorité aryenne. Donc, c'était un film de propagande. Et puis donc, Goebbels est venu le présenter, et Goebbels avait un grand ami à lui, donc Mussolini, hein, le Dulce. Et le Dulce donc est absolument mis la pression sur le jury pour que les dieux du stade obtiennent le prix du meilleur film, alors que le jury, lui, voulait remettre le prix à Autant en apporte le vent. Quand même un truc de fou, quoi.
Et ils ont réussi ou pas?
Et donc, c'est Goebbels et Dulce et le Mussolini ont réussi à...
Ah oui, avec une arme sur la tempe, c'est plus facile de choisir son film, oui.
Et donc, les critiques de cinéma, donc britanniques, allemands, français et anglais, ont soumis... une idée à Jean Say, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Ils lui ont soumis l'idée d'un festival international de cinéma qui serait politiquement indépendant, en France.
D'accord.
Alors l'idée, c'était quand même de faire ça assez rapidement, genre en 1939. L'idée, c'était d'avoir ça se passe dans un endroit un petit peu reposant. Ils voulaient faire ça au mois de septembre, après l'été. Ils voulaient faire ça dans une station balnéaire. Donc, il y a plusieurs villes qui se sont proposées. Donc, il y a eu Vichy, Nice, Cannes, Deauville, Aix-les-Bains et Biarritz.
D'accord. Laval et Roubaix.
Et le 9 mai 39, donc, le processus s'accélère parce qu'entre-temps, le nazisme monte. Quoi, et donc, il faut forcément faire un festival indépendant. Et la ville choisie est Biarritz.
Ah bon ? C'est même pas Cannes.
On choisit Biarritz. Et là, va se faire une petite virevolte. Déçu, Cannes met le paquet, met la pression sur le ministre. Il y a une espèce de lobbying qui se fait. Les propriétaires des grands palaces à l'époque, le Palm Beach, le Grand Hôtel, font pression sur le ministre pour qu'il change. La ville de Cannes, elle s'engage à donner plus de 600 000 francs de subventions pour ce festival. Et elle décide même de construire un palace pour accueillir le festival.
Ah.
Et puis Biarritz ne peut surenchérir. Et finalement, on change d'avis. Et c'est Cannes qui va obtenir le premier festival qui devait avoir lieu en septembre 1939. Ouais. Malheureusement, en septembre 1939, c'est la déclaration de guerre avec l'Allemagne. Et donc, il faudra attendre 1946 pour voir la première édition du festival de Cannes.
Ils ont eu le temps de le bâtir.
Alors après, pourquoi? Alors, faut savoir qu'on n'a pas tout de suite remis non plus une palme d'or. La palme d'or, ça date de 1955.
D'accord. Donc, en 45, on offrait quoi alors? Alors, une huître,
Non, c'était juste un grand prix. Mais alors, pourquoi une palme? Moi, je pensais que c'était une palme, on était à la mer. Non, en fait, c'est plus profond que ça. Hein. La palme, faut savoir que c'est le symbole de Cannes. En fait, ça apparaît sur le blason de la ville de Cannes.
Ah, ça a lié à la ville, d'accord.
Mais alors, pourquoi une palme sur le blason de Cannes? Pourquoi ce symbole? Alors, il faut remonter au 5e siècle après Jésus-Christ, où on suit la figure de Saint Honorat, qui est un moine, qui décide de s'installer dans une île, les îles du Lérin, qui sont au large de Cannes. Il veut fonder un monastère. Alors ça, c'est une légende. Hein. Malheureusement, l'île des Lérins sont infestées de serpents. Et donc, par un miracle incroyable, donc par la force de sa prière, il fait mourir les serpents, en priant pour que l'île soit recouverte de vagues, recouverte d'eau. Donc toutes les îles sont recouvertes d'eau, ça fait fuir les serpents. Et pour se réfugier, en fait, Saint Honorat se réfugie sur un palmier. Et là, il voit tout ce qui se passe sur l'île. Et donc en mémoire à Saint Honorat et avec l'histoire du palmier, c'est ça pour ça qu'on a que Cannes, qui était situé juste à côté des îles du Lérin, ont mis ce palmier sur leur blason.
Et donc c'est bon, d'accord.
Et donc c'est pour ça qu'on met le palme d'or, c'est vraiment lié à la ville de Cannes. Voilà.
Très bien, écoute, merci Olivier, on apprend des choses ce soir, mais dingue. Allez, pour terminer, plongeons-nous dans la version binaire des couleurs, avec Pauline qui se demande pourquoi le bleu est pour les garçons et le rose pour les filles.
Exactement. Personne autour de cette table n'a pu y échapper à cette vision purement horrible et sexiste de notre société. J'ai dénommé le catalogue de jouets.
Ah oui.
Qu'y a-t-il de problématique? Ces couleurs, que de rose, que de bleu. Vraiment, il n'y a pas d'autres couleurs a priori qui existent. Depuis notre naissance, on nous apprend, famille et société, ce que doit être aimé faire une fille, ce que doit être aimé faire un garçon. Mais alors, depuis quand cette tyrannie des couleurs, direz-vous? Pourquoi, depuis quand le rose, depuis quand le bleu? À votre avis, c'est vieux,
ça doit être assez vieux, mais je crois de mémoire que c'était inversé il y a quelques... Enfin, c'est durant les rois, donc du coup, ça a dû changer quand même. La Révolution, peut-être, j'imagine, 1700...
Détrompez-vous. Non, 1940.
Ah oui, c'est super récent.
C'est super récent, c'est là où c'est vraiment... le règne du bleu et du rose qui s'est installé. Ces couleurs sont apparues dans la garde-robe occidentale depuis le milieu du 19e siècle. Mais voilà, ça s'est vraiment installé donc, dans les années 40. Et qui en est l'auteur, me direz-vous ?
Pétain.
Non, il n'a pas tout fait non plus. Hein,
il
n'a pas tout lui mettre sur la tronche.
Fait, hein. Non, non. Non, même pas une petite idée.
Non.
Qui est ce démon ?
Comment ? Un français ?
Ouais, non. Non. Hein ? Le marketing, tout ça.
Ah, ouais. Ah oui.
Les industriels.
Il n'y a pas de nom.
Et donc pourquoi ? Ben, en fait, tout simplement pour le flouze, la thune. Mais oui, parce que acheter un pull bleu pour ses fils et un pull rose pour ses filles, eh ben, ça revient quand même un petit budget, alors qu'avant, mais avant, si on remonte aux origines encore plus des garde-robes, Caroline ne me détrompera pas, eh bien, c'était comment nos garde-robes, finalement, de petites filles ? Avant, c'était
bleu.
Tout blanc. Mais oui, tout blanc, neutre. Il n'y avait pas de...
C'est un peu triste
couleur.
Aussi.
Alors, c'était parce que la tenture était chère, et puis parce que les habits, bah, fallait, pour les laver, on les faisait bouillir, donc tout simplement, les couleurs ne pouvaient pas tenir le coup. Et en plus, là où cette tyrannie du rose et du bleu est quand même assez fortiche, c'est que, en plus, comme disait Bruno au départ, ça a été inversé au départ. Et oui, au Moyen-Âge, il y a quand même des hommes qui se sont fait représenter avec des habits de rouge, voire de
rouge
clair, voilà, ouais. Rose, en signe de virilité, en signe voilà, de force, alors que le bleu, bah, c'était plutôt la féminité,
la douceur,
douceur, voilà, la fécondité. Détrompez-moi quand même, mais il y a quand même la Belle au bois dormant et Cendrillon qui sont habillés
en
bleu.
C'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Walt Disney surveillait ces tendances. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que personne n'échappe à ce qui est systémique, comme le sexisme. Mais bonne nouvelle, on peut à notre échelle contribuer à déconstruire le système et éduquer nos enfants vers une société un peu plus juste et plus ouverte. Bah oui, un garçon, il peut pas devenir forcément homo parce qu'il porte du rose. Mais non. Ça, c'est toujours la peur, la grande peur des parents, encore à notre époque.
Et alors, combien même ils deviennent homo, on s'en bat les...
Mais oui, voilà, qu'est-ce qu'on s'en bat, c'est clair. Et donc, c'est faux, de toute façon, voilà, il n'y a pas forcément, il n'y a pas de débat là-dessus.
Il n'y a pas de lien avec les couleurs et sexualité, oui.
On n'est pas déterminé par les couleurs qu'on porte, évidemment. On peut aimer le rose sans être efféminé, on peut être efféminé sans être gay, on peut être gay et détester le rose. Bref, on est libre et restons-le. Merci.
Très bien. Merci, Pauline. Ouais, c'est vrai. Entre Sandra qui veut faire le stylo, les couleurs, on y va. Ça va être une émission revendicative. Non, mais. Allez, il
pas
est
content.
Temps. Oui, elle pas content, Reza. Pas content.
J'allais
pas
dire,
content.
Je sais plus, c'est dans les années 60 où la couleur orange, finalement, c'était aussi bien pour les filles que pour les garçons.
Bah oui, mais dans les magasins de vêtements, c'est toujours. Puis même dans les fournitures scolaires, hein, ça va jusqu'aux
aussi.
Articles
bah,
même
jouets,
de sport.
Bah,
pour en revenir au stylo, les filles écrivaient en rose, souvent. Et il y avait des écritures roses, amoureuses, etc. Il y avait des gens, ça allait jusque là. Hein,
ça a même existé, oui.
Ouais. Parce qu'en fait, les petites filles demandent également du rose parce qu'on leur a tellement dit qu'elles demandent également
exactement,
ça. Voilà, donc c'est dès le départ qu'il faut inculquer le
et
fait
c'est,
que.
C'est parfois
couleurs...
même inconscient, même chez les parents.
Oui.
Hein, ils entretiennent ce système-là et bon.
Ouais. Bon, et on va changer les
couleurs.
Il
est temps de réagir.
Et il est temps aussi de découvrir quelle chronique a le plus inspiré nos chroniqueurs de ce soir. Voilà, donc on part sur un ex-écho ce soir avec deux pour Manu et deux pour Sandra.
Bah,
donc
merci.
C'était la première chronique.
Bon, première, c'est bien.
Et première chronique, moi je dis, eh bien. Non, 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 mais c'est très, très, très bien. Allez. Non, mais c'est parfait. Allez, c'est déjà la fin de CMA. Nous sommes revenus ensemble sur les chroniques, sur les origines des choses. Et ce sera comme ça tous les 15 jours à cette même heure, sur cette même radio. Vous pouvez aussi nous retrouver quand vous le souhaitez en podcast. Hein, c'est gratuit, c'est sur le site de Radio G, radio-g.fr, rubrique émission, puis CMA. Vous allez aussi pouvoir, et c'est nouveau, nous laisser des messages vocaux depuis le site pour nous donner votre avis sur l'émission et même pour nous poser des questions sur des sujets ou voilà, nous dire ce que vous voulez. Rendez-vous simplement sur la page de l'émission. Merci à nos curieux de ce soir. Merci Manu.
Merci Florian.
Merci.
Merci Caroline.
Ouais, merci.
Merci Mathias. Merci Sandra.
Merci.
Merci Jérémy. Merci Olivier.
Merci.
Et merci Pauline.
Merci.
Rendez-vous dans 15 jours, même heure, même endroit. D'ici là, vous aussi, soyez curieux de tout. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. Bonsoir.
With my heart, ooh-ee. Now the feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play, yeah, yeah. Don't play games with my heart, ooh-ee. Now the feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play, yeah, yeah.
All that time on your own with me, we had fun. The 360. I helped you get a UAB. Still could never get you that AT. Sneaking in school just to get by you. I'm obsessed with the scent on you. Coco Chanel on your neck. With your buddy in check. Loving all the time with you. But now you've just gone missing. You're airing all my wishes. You're online but still won't listen. My time is you dismissing. This isn't no way a two-way street. I'm playing sad and it's on repeat. Call me here hoping you see my snap. Cause I'm not ready for us to rap. No, oh.
Don't play games with my heart, ooh-ee. Now the feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play, yeah, yeah. Don't play games with my heart. If you don't give me your time, then I ain't giving you mine. If you're gonna lie, then I'ma say goodbye. Every game you're playing, yeah, boy, I've played them all before. And I win them all.
Cause now you've just gone missing. You're airing all my wishes. You're online but still won't listen. My time is you dismissing. This isn't no way a two-way street. I'm playing sad and it's on repeat. Call me here hoping you see my snap. Cause I'm not ready for us.
Feels hit me differently. When the hidden is deep, don't play, yeah, yeah. Don't play games with my heart. Ooh, yeah. Now the feels hit me.